Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer s'il le faut. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, on va s'intéresser à nos yeux. Savez-vous qu'ils ne mesurent que 24 mm de diamètre et pourtant, ce sont eux qui nous relient au monde extérieur. C'est une bonne raison, non, pour les protéger, je pense, et les soigner. On va parler aussi myopie, cataracte, glaucome, DMLA, on vous dira tout, une bonne vue à tout âge, c'est possible. Une émission en partenariat avec le magazine Tempo Santé. Sa rédactrice en chef, Sylvia Pinoza, sera à nos côtés. Nous recevrons aussi le professeur Corinne Dott. Elle est chef de service ophtalmologie à l'hôpital des Genettes à Lyon. Ensuite, comme tous les vendredis, notre chronique Bien chez soi. Aujourd'hui, nous vous expliquerons comment bien conserver vos aliments, vos restes par exemple. Combien de temps se garde une reste de pizza? Pourquoi faut-il les emballer? Mais aussi, quand les dates indiquent que c'est périmé, que faut-il jeter? Et avec quel type d'aliments peut-on se laisser encore quelques jours? On vous dira tout. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous expliquera pourquoi il est parfois plus difficile de parler de ses désirs profonds, de ses fantasmes quand on est amoureux.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Charles. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'avoue, car je suis un peu dans le flou. J'ai consulté récemment podologue et ostéopathe car j'ai constamment mal au dos. Ils m'ont conseillé d'aller chez mon dentiste. Est-ce vraiment utile? J'ai du mal à comprendre la logique. Et en fait, je ne vois pas vraiment le lien entre mon mal de dos et mes dents. Merci pour votre réponse. Bonne journée.
Alors, pour vous répondre avec précision, Charles, on a interrogé pour vous le docteur Alain Hamzalag. Il est chirurgien dentiste à Paris.
Alors, en fait, pour bien comprendre l'incidence des dents sur les problèmes de dos, il faut imaginer que la première articulation mobile du corps, si on regarde un squelette, c'est l'articulation des mâchoires, l'emboîtement des dents. Or, si pour des raisons diverses, que ce soit des dents qui soient absentes ou des dents qui ne s'emboîtent pas bien ou des prothèses inadaptées, que les mâchoires ne se rejoignent pas parfaitement d'une manière harmonieuse, eh bien il y a une tension qui se crée et le centre de gravité du corps est dévié. Donc un simple problème dentaire au niveau de l'emboîtement des mâchoires peut retentir sur les cervicales, sur le dos, sur les hanches, et même au niveau des pieds. Ça, c'est ce qu'on appelle les problèmes descendants. Et à l'inverse, imaginez par exemple qu'on ait une jambe un petit peu plus courte, ce qui peut arriver, eh bien ça peut remonter et provoquer un problème de mâchoire également, de douleur au niveau des mâchoires.
Voilà, c'était le docteur Hamzalag au micro de Barbara Silvera Sonigo. Le docteur Hamzalag qui est également le co-auteur du livre « Si le dentiste pouvait vous sauver la vie » publié chez Hugo New Life. Bon Jimmy, on va prendre une seconde question. Celle-ci, elle est pour vous. C'est une auditrice qui s'appelle Mélanie. Un très joli prénom, n'est-ce pas? Elle a 32 ans.
Bonjour Jimmy, Mélanie. Voilà une petite question à vous poser. Ça m'arrive souvent d'avoir des vertiges lorsque je suis couchée dans mon lit. J'ai l'impression que tout tourne autour de moi. À quoi est-ce dû? Et y aurait-il un traitement ou un médecin que je peux aller voir? Merci beaucoup. Au revoir.
Jimmy, bon, avoir des vertiges régulièrement, surtout donc, comme elle le décrit, même allongé, j'imagine qu'il y a plusieurs causes hein, qui peuvent expliquer ça. Peut-être, je ne sais pas, on va prendre au hasard déjà dans l'oreille interne. Je sais
alors,
pas.
Il faut rappeler déjà ce que c'est qu'un vertige et le distinguer de la sensation vertigineuse. La sensation vertigineuse, c'est comme si ça tanguait, comme sur un bateau. Le vrai vertige, c'est comme si vous étiez sur un manège. La pièce tourne autour de vous. Et dans ces cas-là, il y a trois drapeaux rouges, trois signes d'alerte qui doivent absolument vous faire consulter. Le premier, c'est les maux de tête. Vertige plus maux de tête égale urgence. Vous avez le droit de faire un accident vasculaire cérébral ou d'avoir une artère qui saigne. Le deuxième drapeau rouge, c'est des cervicalgies. Vous avez mal au cou. Cervicalgie plus vertige égale peut-être suspicion d'une dissection d'une artère carotidienne.
Très très grave.
Égale aux consultes. Et troisième drapeau rouge, c'est des signes neurologiques. Si vous dites en plus de ça, c'est bizarre, je vois un peu moins bien, j'ai un bras qui marche moins bien, je titube réellement. Dans ces cas-là, on va aux urgences. Mais effectivement, lorsqu'on est allongé, là, ce qu'elle décrit, c'est des vertiges qui vont s'aggraver en position allongée. On peut suspecter une cause interne et c'est souvent lié à des petits cristaux qu'on a dans l'oreille.
Alors, il y a la maladie de Meynière, justement, qui peut être à l'origine de vertiges réguliers. C'est quoi cette maladie, brièvement?
Difficile de passer à côté de la maladie de Meynière puisqu'elle survient de façon assez caractéristique et un peu stéréotypée par, dans un premier temps, des bourdonnements d'oreilles, des acouphènes, et puis vous avez une baisse de l'audition, et puis par la suite vous avez des vertiges. Et c'est des crises qui vont se répéter avec une évolution assez particulière car on ne comprend pas bien la maladie, mais à mesure que la maladie s'installe et qu'elle progresse, eh bien, les crises vont être de moins en moins intenses et vous allez avoir une baisse de l'audition de plus en plus importante. Mais ça, c'est l'ORL qui permet de faire le diagnostic.
Il y a des traitements pour cette maladie qu'on ne connaît pas très bien encore, hein, j'ai bien compris. Mais bon.
C'est compliqué, on donne des diurétiques, c'est-à-dire des traitements quasiment pour éliminer l'eau qu'on aura en trop, certains régimes avec limiter les apports apports en sel, limiter les excitants comme la caféine. Et puis, il y a certains traitements chirurgicaux. On va agir justement sur les pressions, puisque c'est un problème de pression au niveau de l'oreille interne.
Et là, on peut pas. Bon, on n'est pas là pour faire de la consultation en direct, bien évidemment, mais est-ce qu'on peut pas souffrir de vertige comme elle le décrit aussi, tout simplement parce qu'on est peut-être en carence de quelque chose, on a un anémié ou.
Oui, dans ces cas-là, mais vous avez la sensation vertigineuse. Vous n'avez pas le vrai vertige. D'accord. La sensation vertigineuse, c'est comme si je vais faire un malaise. C'est bizarre. J'ai l'impression que ça tangue. Mais en plus de ça, vous avez souvent des symptômes associés. Je suis essoufflé, j'ai le cœur qui bat vite. Et dans ces cas-là, effectivement, vous allez avoir une hypertension artérielle, une tension qui est trop élevée, ou à l'inverse, une baisse de tension avec un malaise vagal, ou encore une anémie ou d'autres types de carences. Mais dans ces cas-là, ça ne survient pas spécialement en position allongée, c'est plutôt lorsque vous êtes debout. Là, elle décrit vraiment quelque chose qui s'aggrave en position couchée. Donc bon, direction l'ORL.
Quoi qu'il en soit, puisqu'on n'est pas là, justement, je l'ai encore dit, pour faire une consultation, là, dans l'idéal, c'est de consulter, évidemment. Il y a même des centres spécialisés dans les vertiges, je crois.
Oui, on fait plein d'examens, on vous teste l'audition, on vous met sur une chaise, on vous met de l'eau chaude, puis de l'eau froide, on appelle ça des tests caloriques, qui vont déclencher certains vertiges. On vous met sur une chaise qui va tourner dans tous les sens, justement, pour explorer ces vertiges. Et donc, c'est des centres experts qui font ça du matin au soir, et qui, justement, vous permettent d'avoir un diagnostic et par la suite un traitement.
Très bien, merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé, bien-être, 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier sur la santé visuelle. Dépister, traiter, corriger, une bonne vue à tout âge, c'est possible. On parlera aussi de myopie, de cataracte, de glaucome et de DMLA. On fera le point sur les dernières innovations. Tout ça, c'est dans quelques minutes, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
C'est le moment d'accueillir nos deux invités pour ce dossier du jour en partenariat avec le magazine Tempo Santé. On va commencer par vous, Sylvia Pinoza. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous êtes rédactrice en chef de Tempo Santé. Vous avez donc coordonné le tout dernier numéro qui est en kiosque en ce moment. Un numéro avec un grand dossier consacré à nos yeux. Sylvia, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce dossier très complet, juste pour comprendre un peu de quoi il s'agit?
On va découvrir les principales pathologies des yeux et puis on va trouver quels sont les meilleurs traitements et les meilleures façons de prévenir ces pathologies, s'il y en a.
Alors notre deuxième invité, c'est vous, professeur Corinne Dott. Vous êtes chef de service ophtalmologie à l'hôpital des Genettes à Lyon. Vous êtes chef de pôle enseignement, recherche, innovation. Les yeux, bon, vous en voyez tous les jours. Vous avez dû en avoir un paquet depuis le nombre d'années que vous travaillez, j'imagine bien. Et justement, pour démarrer, nous, les yeux, finalement, on n'en sait pas grand-chose. C'est fait de quoi, déjà, un œil?
Alors, l'œil, c'est un organe sensoriel, comme on le sait tous, il est pair. Hein, et globalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le diamètre moyen est d'environ 23 mm. C'est une sphère, globalement. Et on le compartimente en deux parties, le segment antérieur en avant, qui comprend la cornée et le cristallin, et le segment postérieur à l'arrière, qui comprend la rétine et le nerf optique. Et ces espaces générés vides sont en fait comblés par un liquide. Hein. En avant, c'est l'humeur aqueuse et à l'arrière, c'est le gel du vitré.
Donc, c'est pas de la graisse à l'intérieur,
pas du
je
tout,
ne sais quoi.
Pas du tout. Mmh. Autour de l'œil, oui, dans l'orbite, il va y avoir de la graisse orbitaire pour protéger l'œil contre la paroi orbitaire. Et cet œil, lui, il va être raccordé au système nerveux central, le cerveau, par le nerf optique.
Très bien, c'est clair.
Alors, ça paraît un peu trivial comme question, mais est-ce qu'il y a des yeux plus fragiles que d'autres? Est-ce que lorsqu'on a les yeux bleus ou clairs, on est plus sensible que d'autres qui auraient les yeux noirs ou marrons?
Alors ça n'a pas été démontré. Ça n'a pas été démontré du tout. Par contre, un œil fragile pour nous en ophtalmologie, c'est un œil qui a été traumatisé, soit par un traumatisme violent, soit par des chirurgies itératives.
Mais les yeux clairs, en tout cas, ils disent souvent « je suis plus sensible à la lumière », tout ça, c'est pas prouvé en tout cas.
Cela a été évoqué dans la DMLA éventuellement, on a pensé à un moment donné qu'effectivement les yeux clairs pouvaient avoir plus de DMLA, mais ça n'a pas été confirmé. Effectivement, en général, ils sont un peu plus sensibles à la lumière, mais ce n'est pas une pathologie pour nous.
D'accord. Sylvia Pinoza, si on se met dans le contexte actuel, avec la pandémie, beaucoup de gens ont pratiqué ou pratiquent encore le télétravail, donc des heures et des heures devant un ordinateur. Est-ce que ça a eu des effets néfastes sur notre santé visuelle?
Oui, enfin, on est assez nombreux à avoir des problèmes de sécheresse oculaire, parce que devant notre écran, on va avoir tendance à cligner moins souvent des yeux et d'avoir une sensation de picotement et de brûlure aux yeux. C'est très très fréquent pour tous les télétravailleurs devant leurs ordinateurs.
Et du coup, professeur, quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer pour éviter justement ces inconvénients visuels, notamment liés aux contraintes de télétravail?
Alors, la première, c'est de porter une très très bonne correction sur ses verres optiques. Ça, c'est la première chose à bien faire. Ensuite, il y a toute une ergonomie de travail à mettre en place. Il faut éviter les reflets sur les écrans. Donc, par exemple, il ne faut pas travailler face à une fenêtre. Il faut éviter tous les reflets. Les verres correcteurs également sont des verres anti-reflets qu'il faut avoir. Et puis ensuite, il y a d'autres astuces pour diminuer la fatigue visuelle. C'est diminuer le rétroéclairage de l'écran, par exemple. Voilà.
Mais faire des pauses peut-être, parce que si on travaillait toute une journée entière.
Bien sûr, des pauses, on travaille plus sur les écrans qu'avant. La première chose, une fois de plus, c'est d'avoir une très bonne correction optique.
D'accord.
Parce que ça va diminuer tous les efforts d'accommodation. Et bien sûr, après, le clignement, On le sait tous, hein, bien sûr, il diminue avec les écrans. Donc si on sent des sensations de sécheresse oculaire, on peut tout à fait adapter avec des lubrifiants et des larmes artificielles de temps en temps. Professeur... Les premières choses, verres correcteurs.
Professeur Dodd, justement, en parlant du Covid, est-ce que les yeux peuvent être une porte d'entrée du virus? Est-ce qu'il peut y avoir même des signes oculaires? Après, on termine avec le coronavirus, mais est-ce qu'il peut y avoir des maladies des yeux liées au coronavirus?
Oui, mais ce n'est pas du tout les signes prédominants dans cette pathologie. Bien sûr, on a détecté des larmes dans les larmes du Covid, dans la conjonctive, on peut avoir des conjonctivites, on peut avoir des inflammations intraoculaires, mais finalement, comme un peu avec tous les virus, même des atteintes rétiniennes qu'on a eues, des atteintes neuro-ophtalmologiques, mais ça ne prend pas du tout le devant pour nous de la pathologie. Pour nous, la pathologie nous ennuie directement parce qu'elle nous fait déprogrammer nos chirurgies. Les patients sont beaucoup moins venus en consultation d'urgence. Et donc là, on est en train de compter un petit peu les dégâts parce que les patients arrivent en retard par rapport à leur pathologie, donc avec des pathologies plus graves.
Alors on va parler un peu de prévention, on sait que le sport ou tout simplement l'activité physique a un impact sur notre santé, mais est-ce que c'est aussi valable pour nos yeux? Ça ne paraît pas forcément intuitif tout ça.
Non, le lien entre le sport et la santé oculaire n'est pas établi. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on a une meilleure santé oculaire. La seule chose, c'est quand on fait du sport en général, on le fait à l'extérieur. Donc on le sait que la lumière naturelle est meilleure pour l'ensemble du cognitif sur le plan oculaire. Mais alors, par contre, nous, sport et santé oculaire, le lien direct, c'est le traumatisme. Et c'est la protection de l'œil lorsqu'on fait du sport.
Ouais,
on a plus d'ennuis avec le sport sur les yeux que d'effets bénéfiques directs.
D'accord, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter le sport. Hein.
Absolument
au contraire,
pas.
Il faut bouger, parce que Jimmy, il est capable d'arrêter tout de suite. Hein.
Non,
Jimmy,
je reste assis.
Jimmy, il faut continuer à courir.
Alors, toujours en matière de prévention, professeur, le tabac, on sait que c'est rempli de produits nocifs, que c'est mauvais pour nos poumons, notre cœur, etc. Là, est-ce que pour le coup, il y a un lien direct nocif qui est montré sur les yeux?
Le lien du tabac a été démontré, notamment sur la rétine et la toxicité maculaire dans la DMLA, oui.
Donc fumer abîme
plus nos
yeux.
Ce n'est pas bon, pour la, pour la rétine, comme l'alcool n'est pas bon pour le nerf optique ni pour le cristallin.
Ah bon, quelle action? Ça l'abîme, ça l'use?
Ça peut entraîner, quand l'usage est bien sûr important, ou de l'alcool frelaté, peut donner des neuropathies optiques graves, nécessitantes parfois. Et on a également, lorsqu'on consomme beaucoup d'alcool, des cataractes précoces.
Et du côté de l'alimentation, est-ce que certains aliments ou certaines vitamines permettraient d'améliorer ou d'éviter certaines maladies oculaires?
Oui, alors là, l'alimentation, c'est extrêmement important pour la santé de la rétine et de la macula. Ça a été tout à fait démontré par de grandes études internationales, notamment les études AREDS. Et on a une grosse étude également française, bordelaise, Aliénor, qui ont bien montré cela. Donc on supplémente les patients qui ont des pathologies maculaires actuellement par des petits comprimés de vitamines, les patients qui sont au stade de la maculopathie liée à l'âge.
Des vitamines particulières ou
Si, il y a des vitamines bien sûr tout à fait particulières. Ce sont des savants dosages qui ont été montrés par les études. Mais la première des choses, bien sûr, c'est d'avoir une alimentation équilibrée qui comprend des légumes verts et du poisson pour les oméga-3.
J'allais dire une vitamine en particulier bonne pour les yeux, bon, en tout cas des minéraux. Les oméga-3, c'est important par
oméga-3,
exemple.
Oméga-3, très important.
D'accord. Sylvia Pinoza, pour savoir justement si notre vue a baissé, si nos yeux vont bien, il faut aller bien sûr chez l'ophtalmo, on le sait tous, mais c'est quoi la fréquence idéale, on va dire?
Alors, pour les enfants dès 3 ans, on peut aller voir son ophtalmo. Si le bébé a été prématuré, on essaiera de le voir même plus tôt, vers 1 an. Sinon, pour l'adulte, en l'absence de pathologie particulière, on peut avoir une visite de 1 et maximum 3 ans, en sachant aussi que c'est une spécialité où souvent on a des rendez-vous assez compliqués, assez lointains. C'est difficile d'avoir un rendez-vous.
Donc si c'est qu'une fois par an et qu'on n'a pas de pathologie, on a le temps de le prendre à l'avance. Mais pour les gens plus urgents, c'est plus compliqué.
Si
mais
on n'a pas
c'est
de pathologie, on peut tout à fait consulter tous les 3 ans sans problème.
Professeur Dodd, quand on a mal aux yeux, on se met un peu de collyre, comme ça, on attend que ça passe, justement, parce que c'est parfois difficile de trouver un rendez-vous chez l'ophtalmo. Est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser l'automédication, comme ça, en ophtalmologie?
Alors, l'automédication, comme dans toutes les spécialités, je pense, il faut la prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions. S'il s'agit simplement de mettre des larmes artificielles dans l'œil, pas de souci. Et de préférence sans conservateur, parce que les conservateurs, quand on en utilise de manière continue, peuvent créer une inflammation conjonctivale. Par contre, les autres médications, antibiotiques, non, corticoïdes, surtout pas. Non, l'automédication, attention sur l'œil.
Professeur, quand on a des problèmes oculaires, est-ce que ça peut être révélateur d'une autre maladie, puisque finalement, les yeux sont en quelque sorte le prolongement du cerveau, en tout cas, ils sont connectés. Est-ce que ça peut nous faire amener à faire d'autres diagnostics?
Ah oui, absolument. Donc, l'œil peut être. Les symptomatologies oculaires peuvent être révélatrices parfois de maladies, notamment neurologiques, comme la sclérose en plaques, par exemple, des accidents vasculaires cérébraux, vous en avez parlé tout à l'heure. On peut avoir une amputation du champ visuel, donc effectivement, c'est un signe. Mais on peut aussi avoir des révélations, enfin des signes en relation avec des pathologies générales, comme le diabète. On peut avoir des signes révélateurs de pathologie générale rhumatologique quand on fait une uvéite, par exemple. Donc oui, bien sûr, l'œil va exprimer à distance certaines choses qui se passent dans le corps et peut, pour dans certaines pathologies, même devenir un signe cardinal.
Très bien, merci à toutes les deux. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on va continuer de vous expliquer comment prendre soin de vos yeux et surtout comment détecter les maladies qui vont avec. On parlera de myopie, de cataracte, mais aussi de glaucome. On vous dit tout dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors en studio avec nous pour cette émission en partenariat avec Tempo Santé. Vous d'abord, Sylvia Pinoza, vous êtes rédactrice en chef de ce magazine. Et puis en plateau également à nos côtés, le professeur Corinne Dott. Vous êtes chef de service ophtalmologie à l'hôpital Desgenettes à Lyon et chef de pôle enseignement recherche innovation. À présent, on va s'intéresser à quelques-unes des pathologies qui peuvent toucher nos yeux. On va commencer par les petits bobos du quotidien. On va dire, Sylvia, il y a un petit focus SOS dans Tempo Santé qui explique que si c'est grave d'avoir mal à l'œil, alors quand est-ce qu'on doit consulter quand on a mal à l'œil, justement ?
Alors, il y a plusieurs, on propose plusieurs situations. Enfin, alors, la première, c'est face à une douleur vive, avec une baisse de la vision, accompagnée de maux de terre, voire de vomissements. Dans ces cas-là, il faut consulter rapidement parce qu'il peut s'agir...
Bon, moi, j'aurais pas hésité dans cette situation.
Surtout pas hésiter.
Commence à vomir et avoir mal très fort.
Il peut s'agir d'un glaucome aigu, donc il doit être pris en charge rapidement. Également, dans le cadre d'accidents domestiques, comme un produit corrosif qu'on peut avoir dans les yeux ou un corps étranger, là aussi, consulter rapidement pour éviter des lésions. Et puis, dans un petit quelque chose de plus courant, si on a une douleur sourde derrière l'œil et qu'on a des migraines, il peut aussi s'agir d'un défaut de correction ou de convergence. Et là aussi, prenez rendez-vous.
Alors, professeur, c'est une question pratique qui revient assez souvent. Lorsqu'on a un œil rouge, est-ce qu'on doit s'inquiéter ? C'est souvent un recours de consultation, même en médecine générale. Les gens ne vont pas tout de suite voir l'ophtalmo. Qu'est-ce qui doit alarmer un œil rouge ?
Alors l'œil rouge, pour répondre à votre question, c'est extrêmement difficile. Ça va être complètement bénin, c'est l'hémorragie sous-conjonctivale. On a le matin, on se réveille, on a le blanc de l'œil qui est complètement rouge, rouge vif. C'est hyper impressionnant, mais finalement, c'est pas grave. C'est juste un petit vaisseau qui a claqué sur
la conjonctive. Moi, c'est des allergies en ce moment. Hein.
On se frotte les yeux, tac, les petits vaisseaux sont plus fragiles et on a une hémorragie sous-conjonctivale. Alors la seule chose qu'il faut faire contrôler, c'est l'hypertension artérielle, si on en a ou pas dans ce cas-là. Mais c'est pas grave du tout, une hémorragie sous-conjonctivale. Un autre œil rouge, ça va être celui de l'uvéite. Alors là, oui, c'est une urgence. Par exemple, c'est très difficile de faire la différence. Hein. Un œil rouge douloureux, attention, il faut consulter. Oui, il faut consulter.
On va passer aux troubles de la vision. On va commencer par le plus connu, la myopie. On entend dire qu'elle est de plus en plus fréquente ces derniers temps. Sylvia, est-ce qu'on a des chiffres ? Combien y a-t-il de myopes ? Est-ce que c'est vraiment en augmentation ?
Alors, il y aurait un tiers des enfants et des ados et des adultes entre 16 et 24 ans qui seraient myopes. Donc, c'est en augmentation constante, 5% en 10 ans, ce qui est assez important. Et on est encore loin des 90% de certains pays asiatiques. C'est des chiffres qui ne sont pas anodins.
Alors professeur, ça paraît aussi bête comme question, mais c'est quoi la myopie ? Qu'est-ce qui se passe dans l'œil d'un myope ?
Alors l'œil myope est un œil qui est plus grand que la normale. On a dit tout à l'heure que c'était une sphère d'environ 23 mm de diamètre. L'œil myope va être au-delà de 25 mm.
Il
donc c'est un œil qui est grand,
hein, c'est ça,
ouais. Oui, qui a grandi. En général, c'est plutôt des gens qui sont grands aussi, qui a grandi. Et donc l'image qui doit se former normalement pile poil sur la macula pour qu'on voit net sans lunettes de loin, eh bien cette image va se former en avant de la rétine. Donc on voit flou de loin. Plus on est myope, plus on voit flou de loin.
Est-ce qu'il y a des moyens de la prévenir, la myopie ? Parce que Sylvia nous a dit tout à l'heure, c'est en augmentation. Est-ce que, je sais pas, j'ai quelque chose que je peux faire avec mes enfants, par exemple, pour éviter qu'ils ne deviennent myopes ?
Alors là, actuellement, bien sûr, on parle beaucoup de smartphones, de tablettes, d'écrans sur de longues périodes chez les enfants. Effectivement, il y a la distance de travail qui est extrêmement importante. Plus on travaille près, plus on fait travailler son accommodation. Et vraisemblablement,
c'est pas l'écran en lui-même directement qui rend myope, mais c'est la façon de les utiliser.
C'est l'accommodation. Hein, c'est ça. Hein. Et puis, donc, effectivement, il a été montré dans des études récentes que plus on passe du temps à l'extérieur et moins on est myope également. Donc, il faut alterner.
Donc, tous dehors, c'est un bon moyen déjà.
C'est un bon moyen.
Et regardons loin.
Voilà.
Alors, il faut le dire aux auditeurs, car c'est peu connu, mais une forte myopie peut avoir d'autres conséquences et entraîner d'autres pathologies oculaires.
Oui, alors la forte myopie, c'est au-delà de 6 dioptries, hein, ce sont des globes assez grands, et effectivement, ce sont des globes qui ont une rétine qui est plus fragile, notamment en périphérie, hein, ce sont des gens qui font plus de décollement de rétine que les autres. On peut avoir également des néovaisseaux de la macula, du sujet jeune, du myope fort. On peut avoir également des problématiques de glaucome, c'est un facteur de risque du glaucome, la myopie forte. Et également, en général, ils font des cataractes plus précocement que les autres.
Mais quand on est myope, bon, on peut se corriger avec des lunettes, des lentilles, on ne va pas rentrer dans le détail, tout le monde connaît ça. Ouais, mais est-ce que ça va ralentir l'évolution de la myopie, de s'équiper déjà, de se corriger?
Il y a une petite nouveauté, enfin une grande nouveauté sur le sujet là, qui va nous être présentée à notre prochain congrès ce week-end, c'est qu'il y a des nouveaux verres correcteurs qui sortent pour les enfants, pour corriger et soulager leur vision de près notamment, pour qu'ils ne surstimulent pas leur accommodation. Donc ça arrive sur le marché. On va commencer à les prescrire, en tout cas pour les enfants.
On va passer à un autre trouble fréquent, la presbytie. C'est quoi précisément? Et là, on peut dire que bon, c'est un problème presque normal de vieillissement finalement.
Oui. Ouais. Il est impossible d'y échapper. À partir de 40 ans, le cristallin perd sa capacité à se déformer et à faire la netteté sur la vision de près. Donc,
On y aura tous droit.
C'est inéluctable.
On deviendra tous le presbyte, professeur Dott.
Ah oui, moi, je le suis aussi depuis quelques années.
On ne peut pas finir à 90 ans sans presbytie.
Non, alors, on a des procédés. Il y a des procédés. On peut. Les verres correcteurs, on va dire que c'est le début de la presbytie. Hein. On peut avoir des lentilles de contact progressives également. On peut se faire opérer de chirurgie réfractive à un certain moment également pour la presbytie. Et puis quand on fait l'échange du cristallin pour la chirurgie de cataracte, eh bien on peut mettre un implant multifocal pour régler ce problème de presbytie également.
Deux en un là.
Mmh. Oui, on a tout. Et puis dans les innovations, sont à l'étude actuellement des collyres.
Mais du coup, on n'a aucun moyen de prévention de la presbytie.
Jimmy, il n'a pas encore 40 ans, mais il aimerait bien vous lui trouver un petit truc avant qu'il y arrive. Quoi.
On se dit qu'on devient de plus en plus myope. Est-ce qu'on va devenir de plus en plus presbyte?
Alors, on y passe tous. C'est inéluctable. La seule chose, c'est que le patient myope, en général, il est plutôt gêné vers 45 ans, pas tellement avant. Le patient hypermétrope, vers 40-41 ans, très souvent, il commence à être gêné de près.
Bon, à 38, moi, je suis tranquille, c'est bon.
Et puis, ça peut arriver de manière brutale en sensation pour le patient. Ça, bon. En général, c'est progressif. On commence à être un peu gêné de près, on allonge un peu les bras. Mais chez certains patients, ça peut être brutal. Du jour au lendemain, vous ne lisez plus votre quotidien favori.
C'est ça, mais si on ne se plaint de pas grand-chose, si finalement c'est juste allonger le bras et regarder d'un peu plus loin, ce n'est pas très grave d'être presbyte. Est-ce que
la presbytie pour nous, ce n'est pas grave, ce n'est pas une pathologie.
Et puis au pire, ça se corrige très bien avec des lunettes, tout simplement.
Absolument.
On n'est pas obligé de se faire opérer d'une presbytie. Et puis,
vraiment, bien sûr. Le premier moyen de correction de la presbytie reste le verre correcteur, bien sûr.
Mais les petites lunettes qu'on voit en pharmacie, on est obligé de passer par la case docteur ophtalmo pour la presbytie, ce truc qui finalement va nous arriver à tous en vieillissant.
Oui. Alors, je réponds deux fois pour ça. La première chose, c'est que si vous passez devant le docteur, il va vous faire le dépistage du glaucome.
La presbytie, vous en foutez, mais finalement, c'est le reste que vous allez chercher.
Non, on ne se moque pas de la presbytie. Oh là là. Non, on ne se moque pas de la presbytie, mais ça va être le moyen de vous examiner. Ça, c'est sûr et c'est hyper important. Et ensuite, la presbytie, on la corrige.
Et donc on sera plus confortable. Donc ça vaut le coup de venir vous voir, quoi qu'il en soit. Merci, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Ne bougez pas.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous dit tout sur les pathologies les plus fréquentes qui peuvent toucher nos yeux. Juste après, cataracte et glaucome notamment sont au rendez-vous. Alors, à tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et sur notre plateau pour cette émission en partenariat avec Tempo Santé. Vous d'abord, Sylvia Pinoza, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de ce magazine et avec nous également le professeur Corinne Dott. Je rappelle que vous aussi, vous n'êtes pas du tout rédactrice en chef, vous êtes chef de service ophtalmologie à l'hôpital Desgenettes à Lyon et surtout chef de pôle enseignement, recherche, innovation. Alors reprenons notre petit tour des troubles fréquents qui peuvent atteindre nos yeux. Justement, Sylvia Pinoza, on va passer à la cataracte. C'est quoi et ça touche qui ?
Alors la cataracte, c'est aussi un vieillissement du cristallin. Ça va toucher les personnes plus âgées. Après, à partir de 85 ans, c'est une personne sur deux qui va être touchée. Et là, au fil du temps, le cristallin va s'opacifier et former une sorte de membrane transparente sur l'œil.
Et justement, professeur, quels sont les signes d'une cataracte? Je crois qu'il y a un exemple assez frappant chez un peintre assez célèbre.
Alors bon, les signes les plus fréquents, c'est la baisse de l'acuité visuelle. Ensuite, un signe qui est extrêmement fréquemment rapporté par les patients, c'est la sensation d'éblouissement quand on conduit la nuit. Les phares en face sont éblouissants. Et puis ensuite, effectivement, pour des gens très sensibles aux couleurs, on va avoir une dégradation progressive de la saturation des couleurs. Et globalement, tous les camaïeux de bleu vont devenir plutôt des camaïeux de ocre. Et donc, en ce sens, effectivement, le grand exemple classique en ophtalmologie est celui du peintre Monet. Puisqu'on a il a laissé ses œuvres et on voit très très bien par exemple le pont de Giverny avant sa cataracte, pendant sa cataracte. Et il a repeint après sa chirurgie de cataracte, puisqu'il a été opéré dans les années 20 de sa chirurgie de cataracte.
On voit les couleurs comme ça qui changent, c'est très, très, très frappant. Sylvain nous disait justement que c'est une personne sur deux après 85 ans, mais est-ce qu'il y a des moyens de prévenir la cataracte là aussi ou pas?
Alors là, il y a un facteur de risque
important. Moi, tout le monde a eu la
cataracte
dans ma famille, alors je me dis, est-ce que c'est héréditaire par exemple?
Il y a des familles à cataracte jaune, mais ce n'est pas le plus fréquent. Le facteur de risque important, c'est le soleil. Quand on ne se protège pas de lunettes de soleil, les ultraviolets vont induire des cataractes chez beaucoup plus jeunes. Voilà. Ensuite, on a d'autres causes. Le traumatisme, par exemple, va induire une cataracte chez le sujet jeune. Les médicaments comme les corticoïdes peuvent donner des cataractes également.
Mais chez le sujet âgé, il n'y a pas moyen d'éviter d'avoir une cataracte en vieillissant,
non ? Le sujet âgé, c'est lié à l'âge, c'est le vieillissement, effectivement, qui provoque le jaunissement progressif du cristallin, qui est cristal au départ chez le jeune enfant, transparent comme un cristal, et puis petit à petit, il devient jaune paille vers 50 ans, et puis il va se foncer petit à petit avec les années.
Alors, le traitement de la cataracte, c'est le traitement chirurgical. Et comment ça se passe, puisque c'est une opération qui est très fréquente, qu'est-ce qu'on fait lors de l'intervention ?
Alors, lors de l'intervention de la chirurgie de cataracte, on va aller ôter le cristallin qui est devenu jaune, moins transparent. On passe par la cornée en faisant des petits trous, par des mini-incisions. Et on va aller le fragmenter à l'intérieur de l'œil et l'aspirer. Et on va utiliser le sac dans lequel il est suspendu dans l'œil pour insérer un nouveau cristallin artificiel qu'on appelle un implant.
Pardon.
Demain,
peut-être, je crois que pour traiter la cataracte, il pourrait y avoir du nouveau, avec notamment des implants améliorés. Qu'est-ce qui ne va pas encore aujourd'hui quoi on pourrait faire mieux ? Je crois qu'il y a des désagréments, notamment avec les lumières bleues, et peut-être que demain, des innovations dans ce sens.
Alors, les cristallins artificiels, donc les implants, on en a toutes sortes. Tout d'abord, on a des implants qui sont blancs, enfin transparents blancs, et puis on a des implants qui sont jaunes. Ces implants jaunes sont apparus sur le marché dans les années 2000. Et ils ont pour but de filtrer la lumière bleue. La lumière bleue, on en a beaucoup parlé parce qu'en fait, effectivement, elle est toxique pour la macula, comme les ultraviolets d'ailleurs. Donc tous les implants depuis les années 85-90 ont un filtre intégré d'ultraviolets à l'intérieur. Mais ce qui a été rajouté dans les années 2000, c'est un filtre en plus de lumière bleue. Voilà. Donc ça, on l'a depuis les années 2000, on l'a.
Et dans le futur,
les nouveautés sur les implants, si vous voulez, c'est la technologie des implants. C'est l'apport de la multifocalité, je veux voir de loin, de près, en intermédiaire, sans lunettes, je veux un implant multifocal.
On va avoir un œil bionique, là, il aurait partout.
Ça, on le pose déjà. Ouais. Et là, arrivent de nouvelles générations également d'implants qu'on appelle des implants à profondeur de champ. Tous ces implants-là sont là pour améliorer votre potentiel visuel et essayer, autant que faire se peut, de vous passer de vos lunettes.
Et les prochains, peut-être, on verra à travers les murs.
Ce sera peut-être plus gênant, ça.
Alors, Sylvia Pinoza, on va passer au glaucome. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que cette pathologie et qui est concernée ?
Alors, dans le glaucome, c'est le nerf optique qui est touché, qui est petit à petit altéré et qui va rendre la vision périphérique moins performante. Alors ça concerne à peu près 2% chez les plus de 40 ans et ce pourcentage va augmenter au fil des décennies.
Donc plus on est âgé, plus il y a un risque de glaucome important. Professeur Dodds, il y a deux types de glaucome, je crois. Comment on les différencie et c'est quoi les signes aussi là qui doivent pousser à consulter ?
Alors il y a deux types de glaucome. Le glaucome à ouverture de l'angle, qui est le glaucome chronique, et puis par opposition, le glaucome par fermeture de l'angle, qui est un glaucome dit aigu. Très schématiquement. Comment est-ce qu'on les diagnostique ? Eh bien, en examinant le patient, on va regarder l'angle iridocornéen, ce fameux angle qui est ouvert ou qui est fermé, et on va le diagnostiquer de cette manière-là. Et ce sont deux pathologies complètement différentes.
Mais moi, je ne sens rien à la maison, je n'ai pas le moyen de me dire « Ah, j'ai peut-être un glaucome ».
Ce qu'il faut d'emblée dire, c'est que quand on parle de glaucome, le plus souvent, c'est du glaucome chronique à angle ouvert. C'est celui qui est le plus fréquent. Le glaucome par fermeture de l'angle, c'est à la fin, enfin c'est après 60-65 ans, ça, il est lié au cristallin qui augmente en volume en fait. Et le cristallin augmentant en volume va pousser l'iris en avant et va fermer l'angle iridocornéen, qui est un angle, comme son nom l'indique, entre la cornée et l'iris.
Et est-ce que, comme pour la myopie, c'est important d'avoir un diagnostic précoce et de faire un dépistage assez rapide ? Et est-ce qu'on est un peu mauvais, nous, d'ailleurs, en France ?
Alors, on n'est pas du tout mauvais pour le glaucome en France. Et là, on peut faire un cocorico parce que nos maîtres, nos anciens, ont vraiment développé le dépistage du glaucome, justement en disant depuis très longtemps, il faut passer chez l'ophtalmo à l'âge de 40 ans. En même temps qu'on va vous faire vos premières lunettes de presbyte, on va regarder si vous n'avez pas un glaucome qui débute.
Et vous ne passez pas à côté quand il y en a un devant vous.
Pourquoi ? Parce que ce glaucome chronique, il est du tout complètement indolore. Vous ne pouvez pas savoir. Ah oui. Il faut vous examiner. Il n'y a pas que la tension. Ce n'est pas parce que vous avez une tension basse que vous n'avez pas de glaucome. Ça, on le sait également depuis quelques années. Donc, non seulement il faut prendre la tension de l'œil des patients, mais en plus regarder l'état de leur nerf optique.
Comment ça se traite aujourd'hui le glaucome dans les grandes lignes, on va dire, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer complètement dans le détail.
Essentiellement médicalement, par des gouttes.
Qu'il faut mettre tous les jours dans les yeux. Quoi.
Voilà, donc c'est globalement, si on dépiste les patients qui ont un glaucome tôt, 90% de nos patients vont être traités par goutte toute leur vie.
Mais demain, peut-être quelque chose de révolutionnaire qui va changer le quotidien des patients ou pas ?
On a entre le traitement par goutte et la révolution d'autres traitements, notamment la chirurgie, en passant par là, si vous voulez que je vous en parle, j'en parlais tout à l'heure. Et effectivement, en ce moment, globalement, les études vont vers la libération prolongée, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une goutte matin et soir ou une goutte tous les jours, ben peut-être qu'on aura un système à délivrance prolongée qui fera qu'on va remplir un petit réservoir et qui déversera dans l'œil des gouttes pour 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois.
C'est génial.
Professeur, on va parler de la DMLA, c'est la première cause de malvoyance dans les pays industrialisés après 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ?
Alors la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est l'altération des cellules de la macula. Et la macula, c'est la zone centrale de notre rétine. C'est cette zone qui est extrêmement importante, où il y a toute une grande densité de cônes, qui va nous permettre de lire de loin, de près.
Pour nos auditeurs, c'est quoi les signes qui doivent penser qu'on souffre d'une DMLA, une dégénérescence maculaire liée à l'âge ?
Alors les,
parce que vous dites le glaucome, on ne sait pas, mais là...
Les signes, bien sûr, c'est la baisse de l'acuité visuelle, qui peut être brutale. Alors là, une baisse de l'acuité visuelle brutale, c'est une urgence toujours pour nous. C'est une baisse de l'acuité visuelle, ça va être éventuellement une sensation de ligne ondulée qu'on appelle métamorphopsie dans notre langage. C'est pour ça qu'en général, aux patients, on leur donne volontiers en consultation des grilles qu'ils mettent avec un magnète sur le frigo, par exemple. Ils testent œil par œil, ils regardent si les lignes sont droites, verticales, verticales, horizontales, verticales. Si elles commencent à onduler, ce n'est pas bon signe. Et puis après, on peut avoir la sensation de ce qu'on appelle le scotome, une petite tache noire ou grise au centre de la vision.
Sylvia, est-ce qu'on peut prévenir cette DMLA ?
Alors, il faut consulter. S'il y a des antécédents familiaux, c'est bien de consulter. Et puis, on peut aussi, on le disait tout à l'heure, arrêter de fumer, faire attention au soleil et puis les bienfaits aussi d'une alimentation antioxydante.
De quelle façon, professeur Dott, on prend en charge les patients aujourd'hui atteints de DMLA ?
Alors, la DMLA, on en a déjà deux sortes. La DMLA qui est humide, exudative. Alors, celle-ci, elle est du ressort des injections intravitréennes.
Des injections dans l'œil, hein, c'est ça.
Des injections dans l'œil, absolument, qu'on réalise depuis 2007 à des fréquences plus ou moins élevées en fonction de la pathologie. Et puis, on a la DMLA sèche, au contraire, qui n'est pas donc exudative et pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à proposer aux patients. On a beaucoup de choses qui sont en recherche actuellement, en développement, mais activement, on n'a rien à proposer par rapport à la DMLA exudative à ce jour. Ça va venir.
Rapidement, pour conclure, est-ce que l'innovation nous permet demain d'avoir des traitements peut-être plus performants ?
Alors, pour la DMLA sèche, on va dire que l'innovation va aller vers les techniques de greffe ou de prothèse oculaire. Pour la DMLA exudative, eh bien, là, c'est encore le développement de toutes les médications à libération prolongée, des petits réservoirs. Et surtout, on a une très, très bonne sensation sur la thérapie génique, dont les premiers résultats sont excellents. On est en phase 1 et 2 actuellement. Et on a de gros espoirs sur le sujet. La thérapie génique, c'est introduire dans l'œil une molécule qui va porter un message aux cellules de la rétine. Et elle va leur donner l'ordre de fabriquer le médicament pour se réparer.
D'accord.
Donc c'est fantastique. On verra dans quelques années. Je pense que ça arrive à grands pas quand même. J'espère qu'on l'aura rapidement.
Eh bien, très bien. On termine sur ces espoirs d'innovation. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier du jour. Donc en partenariat avec le magazine Tempo Santé. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, il est en kiosque évidemment au prix de seulement 4,95€. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Bien chez soi. On va vous expliquer comment bien conserver vos aliments. Combien de temps, par exemple, peut-on garder les restes de lasagne de Jimmy au frigo ? Quelles sont les règles en termes de congélation, de décongélation pour ne courir aucun risque ? On vous explique tout. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Bien chez soi, comme tous les vendredis. Aujourd'hui, on va parler de la conservation, de la bonne conservation de nos aliments. Quelles sont les règles que vous appliquez chez vous ? Combien de temps, par exemple, gardez-vous vos restes ? Savez-vous si on peut manger certains produits alimentaires, même périmés, sans danger ? Si oui, lesquels ? Notre reporter Valentin Piovesan a été tester vos connaissances sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Quand on parle des aliments qui vont au froid, jamais briser la chaîne du froid, parce que sinon on peut être très très malade.
Le frais va au frais et l'épicerie va au fond du placard.
Je sais pas, des pommes de terre, des oignons, je dirais à l'abri de la lumière, pour éviter qu'ils germent.
On sait qu'un produit que l'on congèle, on ne peut jamais le recongeler. Ça c'est clair et net, jamais.
On peut décongeler un aliment cru, le cuire et le recongeler.
Il faut faire la différence entre la date limite de consommation et la date d'utilisation optimale. La date d'utilisation optimale, ça veut dire qu'on peut encore manger l'aliment après sa date, mais que le goût risque d'être altéré, en tout cas la qualité risque d'être altérée, date limite, là par contre vaut mieux pas jouer.
Pour moi c'est facultatif, c'est un indicateur, il y a des choses, notamment un yaourt, je vais pouvoir le manger un mois ou un mois et demi après sa date limite de consommation.
En général, tout ce qui est laitage, je dépasse jamais la date qui est donc indiquée sur le produit.
Dans Benjamin Lévesque, vous êtes là pour nous donner tous vos meilleurs conseils. Dans le frigo, quelles sont les règles? Combien de temps, par exemple, je peux conserver les restes de pizza sans risque?
Alors, on va commencer par les boissons. Par exemple, si vous avez ouvert un jus d'orange ou une bouteille de lait pour vos enfants, eh bien, en gros, vous avez 3 jours pour les consommer. C'est un petit peu moins. 2 jours pour votre reste de pizza au fromage.
Alors ma après, préférée,
bon, ouais. Moi, une pizza au fromage, ça reste pas 2 heures. Et puis, c'est la même chose pour les pâtisseries fraîches ou les légumes à la vapeur, par exemple. En revanche, si ce soir, vous préparez du poisson en sauce meunière et que les restes vont au frigo, eh bien, vous avez jusqu'à demain au plus tard pour le manger. Et c'est pareil pour les plats à base de viande cuite.
Bon, Benjamin, qu'est-ce qu'on risque si je garde le kebab quelques jours de plus? Si
ça reste
là,
une semaine au fond du frigo.
Je veux pas le jeter.
Eh bien, non. Il faut savoir que ces denrées dites fraîches, eh bien, elles peuvent contenir des bactéries. Et plus elles traînent dans votre frigo, et plus eh bien, elles risquent de proliférer un petit peu partout. Et en les mangeant, eh bien, le danger, c'est l'intoxication alimentaire. Alors, ça peut être un petit passage aux toilettes pour quelques heures, et ça peut aussi être un petit peu plus grave.
Bon, en matière de congélation, ça, pour le coup, ça nous permet de garder plus longtemps les aliments, beaucoup plus longtemps même, Jimmy. Oui. Benjamin.
Benjamin.
Oui, allez-y.
C'est parce que insulte, là, il vous a repris comme si... Ah non, moi, c'est Benjamin, là, mais vous ne savez pas.
Oui, parce que la conservation est à moins 18 degrés. Donc, on peut garder des aliments quelques mois, voire plusieurs années.
Oh ouais,
et l'avantage
vraiment.
De cette congélation, c'est qu'elle en fait, elle ralentit l'activité de développement des micro-organismes et donc elle ne les tue pas.
Par contre, oui, allez-y.
Non, mais Martin, non, Benjamin, pardon. En revanche, il ne faut pas recongeler, on est d'accord, un produit qui a été décongelé.
Eh bien, pour faire clair, aucun aliment n'est stérile, même dans le congélateur. Les bactéries, en fait, elles sont mises au repos. Et lorsqu'on décongèle, eh bien là, elles se développe à nouveau. Donc partez du principe que la prolifération des bactéries se remet en route. Et si ce fameux plat décongelé eh bien, est mal recuit, hein, les bactéries elles vont résister à la cuisson et de nouvelles vont encore se développer. Donc si vous recongelez derrière, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec un aliment qui contient encore 1000 fois plus de bactéries.
Un bouillon de culture congelée. Alors, faites-nous une petite mise au point pour finir, Benjamin, sur les dates de péremption.
Alors, il ne faut pas confondre, il y a la date limite de consommation, la fameuse DLC, et la date limite d'utilisation optimale. Vous allez le voir, c'est très simple. Si votre produit contient une DLC, là, il n'y a pas le choix. Vous devez vous débarrasser à la date inscrite.
Même en les petits yaourts nature?
Alors non, ça, nature, hein, fonction. Ouais. Eux, on peut les garder 3 semaines de plus. Et pour ce qui est de la date limite d'utilisation optimale, la DLUO, là, vous pouvez conserver votre produit encore quelques jours. En réalité, il n'y a pas vraiment de risque pour la santé. C'est juste au niveau gustatif, le goût et l'odorat, ça sera un petit peu moins bon.
Très bien, mais pas dangereux. Jimmy, vous voyez, vous pouvez garder ça 15 jours
non,
encore.
Non, moi je les jette, je suis paranoïaque.
C'est vrai qu'il m'a dit qu'il ne mangeait aucun produit périmé. Bon, avec vous, on n'est pas, pas...
À part les kebabs. Les kebabs, ça périme jamais. Ça
un mois.
Allez, merci beaucoup, Benjamin, pour toutes ces précisions très utiles au quotidien.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de la semaine, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va terminer cette semaine en beauté avec cette question de Clara, elle a 24 ans, on l'écoute.
Bonjour Catherine, moi je vous appelle parce que là, ça fait à peu près 1 an que je suis avec quelqu'un, tout se passe très bien. Mais j'ai du mal à lui parler de mes fantasmes et de ce qui me ferait plaisir au lit. Alors qu'avant, j'avais pas du tout ce problème. En fait, avant, j'avais pas de relation vraiment sérieuse. J'enchaînais plutôt des coups d'un soir. Et j'étais beaucoup plus libre de parler de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas, de ce qu'il me fallait. Ça me dérange un peu dans ma relation actuelle. Et est-ce que vous aviez des conseils pour peut-être passer le pas et en parler plus librement avec mon compagnon? Merci.
Alors Catherine, est-ce que c'est souvent plus facile, comme elle le décrit, de dire ce qu'on veut d'un point de vue sexuel quand finalement, il n'y a pas tellement d'enjeux dans la relation?
Bien sûr, parce que comme vous le dites, parce qu'il n'y a pas tellement d'enjeux, donc les risques sont minorés. Et puis aussi parce que dans la mesure où c'est un coup d'un soir, ben, de toute façon, la personne, on ne la reverra pas ou on ne se retrouvera
pas. Et autant
pas
que ce soit un bon coup.
Alors, que ce soit un bon coup, donc on se dit qu'il y a urgence à bien faire, sans doute. Ça, c'est votre vision et elle est intéressante.
Non, mais elle est intéressante.
Ça venait du fond du cœur.
Je vous trouve très maligne, vous avez raison. Moi, je disais plutôt, mais ça n'annule rien de ce que vous dites, Mélanie, mais plutôt le fait que si on s'était exposé dans une expression érotique de soi-même en osant des choses incroyables, dans la mesure où l'autre disparaît, il part avec le souvenir et on pourra toujours dire qu'on ne l'a pas dit. C'est plus compliqué quand on se réveille avec celui que l'on aime et avec qui on va faire des frites le lendemain et avec qui on va amener les enfants à l'école, etc.
Les frites, ça va vous parler, Jimmy?
Oh, les frites, oui, le kebab. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'oserait pas assumer ce qui semble être une sexualité normale, puisque lorsqu'on ne veut pas parler de ses fantasmes, c'est qu'on suppose qu'on fait des trucs un peu tordus, alors que c'est peut-être pas le cas. Comment est-ce qu'on fait pour justement être très libre avec un coup d'un soir et puis finalement avec celui qu'on aime être le plutôt
coincé.
Coincé, alors que bon...
Ouais, c'est d'ailleurs triste parce que vous avez raison, c'est plus facile de se libérer sexuellement avec quelqu'un qui n'a pas d'enjeu, avec lequel il n'y a pas d'enjeu amoureux et pas de suite à donner, parce que justement, on n'est pas obligé de veiller à l'image que l'on renvoie de soi. Alors on pourrait se dire, mais son partenaire est très content d'avoir aussi une image, et c'est plus particulièrement vrai pour les femmes, hein, ce point-là, mais c'est aussi vrai pour les hommes. C'est vrai que son partenaire, dans la mesure où il nous aime, on pourrait penser que tout ce qui va être dit, fait, testé, pourrait tout à fait lui plaire et alimenter toutes les images que l'on peut lui renvoyer de soi. Mais la réalité, c'est que quand nous sommes dans notre vie au quotidien, nous sommes guidés par une lecture de nous morale, une lecture de nous intellectuelle, des situations convenables ou non convenables, ou inconvenables. Mais quand on est évidemment dans le cadre de la sexualité, c'est un mélange de fantasmes qu'on attrape au vol éventuellement ou pas du tout, et puis de tentatives d'exposition physique qui ne sont pas nécessairement tranquilles dès lors qu'on commence à les regarder. C'est-à-dire, si on était filmé et qu'on analysait le film, ce qui était vrai dans un lit, le film regardé serait sans doute insoutenable.
Alors certes, là, elle est dans une vraie relation amoureuse, elle le dit, ça fait un an. Elle n'arrive pas à se livrer encore d'un point de vue intime, fantasme, etc. Mais un an, c'est tout jeune quand même. Souvent aussi, on apprend à se libérer, à se parler sexuellement. Ça peut prendre plus de temps que ça. Un an, c'est une jeune relation encore.
Bien sûr, vous avez raison, Mélanie. Ceci étant, ce que j'observe, c'est que quand on établit un type de relation, on a du mal à le bouger par la suite. Donc, c'est vrai que si je ne me libère pas de choses, si elles sont importantes, encore une fois, faisons attention de ne pas vouloir dire qu'on veut faire tout et n'importe quoi, parce qu'il est de bon ton de vouloir faire tout et n'importe quoi, et je m'interroge pourquoi je ne parle pas de tous mes fantasmes. Dans la réalité, mes fantasmes vrais un soir ne sont pas vrais tout le temps.
Il y en a qu'on peut garder pour soi aussi.
Oui, et puis, et puis surtout, ce qu'on a envie de vivre, on peut avoir envie de le vivre pour le tester. Une fois qu'on l'a testé, on n'a plus du tout envie de le vivre. Donc on n'a pas envie d'enfermer une relation qui, elle, va être sur le long terme, sur des bases d'une seule curiosité. Donc dès lors que l'on commence à ouvrir les choses, ou qu'on les ferme plutôt, eh bien, du coup, on a du mal avec le temps de dire bah, « Tiens, tout d'un coup, je voudrais faire ça. » Ce qui, du coup, fait que ça n'améliore pas encore une fois l'histoire.
Mais là, il y a deux choses. Il y a les fantasmes, et on peut comprendre qu'elle ne veuille pas en parler, mais elle dit aussi qu'elle n'ose pas lui dire ce qui lui ferait plaisir au lit. Là, c'est peut-être un peu plus problématique.
Ben oui, c'est problématique, parce que s'il est à côté de la plaque, mais sans aucune malveillance, juste parce qu'il pensait que ça pouvait marcher, parce que peut-être son ex, ça marchait comme ça, ou parce que c'est une idée qu'il se fait du corps ou du sexe d'une femme, lui indiquer le chemin sans être le sifflet dans la bouche avec une autorité extrême, c'est peut-être quand même le meilleur moyen, et pour l'un et pour l'autre, d'être au bon rendez-vous. Simplement, souvent, c'est difficile de se dire que je dois indiquer à l'autre le chemin, m'aime-t-il suffisamment pour ne pas avoir trouvé le chemin. Donc souvent, il y a une sorte de mise à l'épreuve du partenaire pour mesurer combien il m'aime à la mesure de sa compétence à me faire du bien. Mais c'est là que ça pose un problème, parce qu'il n'est pas censé savoir naturellement. Donc un peu, sans être trop directive, un peu d'indication, ce serait très bien pour le couple.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux, comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui, vous savez, ça ne vous a pas échappé, dans deux jours, c'est la fête de l'Europe.
Oui, bien sûr.
Eh bien, pour en prévision, on avait une émission historiquement vôtre consacrée à ceux qui ont pensé l'Europe. D'abord Jean-Jacques Rousseau et puis Robert Schuman, l'un des fondateur de l'Europe, et vous...
Alors Stéphane fait les morts, comme d'habitude, et moi je fais le vivant, celui qui continue de penser l'Europe au sein du gouvernement, Clément Beaune, qui est secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Il se trouve que Stéphane le connaît un peu dans la vie, il se trouve que j'étais à Sciences Po avec lui, et il se trouve que David Castello-Lopez, qui est dans notre émission, était au lycée avec lui, donc ça doit être une émission...
spéciale copinage.
Assez copinage.
Bon, ben on reste entre copains, alors nous aussi on va être à l'écoute, et vous, surtout, restez sur Europe 1.